Bonjour, merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter, le programme de l'émission jusqu'à 13h, la semaine des humoristes. Le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein et puis le débat du samedi, la chute de la maison catholique, point d'interrogation. C'était le titre en couverture du magazine Le Témoignage Chrétien il y a quelques mois. Question d'une actualité brûlante au moment où se tient au Vatican un sommet mondial sur la pédophilie dans l'Église. L'Église qui est face à elle-même et face au monde et une crise qui pourrait être fatale à l'institution catholique romaine. C'est en tout cas ce que pense notre invité, catholique progressiste, théologienne, intellectuelle anglaise. Engagée. Elle publie « Qu'avez-vous fait de Jésus ?» chez Albin Michel. La directrice de la rédaction de Témoignages Chrétiens, Christine Pedotti, viendra nous rejoindre d'ici une petite demi-heure.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le grand face-à-face avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver avant votre duel et le menu est chargé. La semaine des humoristes de France Inter, mise en onde par Anne-Cécile Perrin. Et pour commencer, Guillaume Meurice s'attaque au sujet délicat de l'antisémitisme après les rassemblements qui ont eu lieu cette semaine à Paris.
Bonne ambiance en France en ce moment. Bonne ambiance. Il y a des Banksy version Goebbels qui taguent des cimetières et des portraits de Simone Veil. Pour lutter contre l'antisémitisme, LCI a invité Éric Zemmour. Ah, le mec qui réhabilite Pétain. C'est toujours une bonne idée. Bien joué les gars. Alors c'est dommage que Faurisson soit mort. Parce qu'il y avait une place à la météo. Même s'il aurait nié les normales saisonnières. Ils sont arrêtés dans la merde. Mais bon, la question se pose plus. Puis d'un autre côté, t'as plein de gens qui se découvrent une carrière de chasseur de nazis. C'est vrai que t'as peur maintenant. Des fois, tu critiques Netanyahou. Direct, t'es Himmler. Quoi. Tu refuses un falafel, tu es le docteur Mengele. Donc il faut faire très attention. Mais sinon, c'est chouette, ça se passe bien, c'est calme. D'ailleurs, je suis allé voir les Français ce matin pour bien mesurer la sérénité de la société. Pour être tout à fait cool, d'ailleurs, commençons avec une blague.
Pourquoi les Juifs, ils ont des gros nez?
Je sais pas.
L'air est gratuit.
Ah, parce que l'air est gratuit.
Voilà.
Voilà, petite blague antisémite. Pour commencer, je me suis dit, ça détendrait bien tout le monde.
Dans l'actualité de la semaine, évidemment aussi, le silence de l'Église après la sortie du film de François Ozon et du livre Sodoma de notre confrère Frédéric Martel. Daniel Morin est allé interroger un cardinal au Vatican.
J'allais faire part au monde de mon indignation quant au livre qui va apparaître. L'homosexualité n'est absolument pas présente au Vatican. Et si je porte une soutane en cuir, c'est nullement un signe de frivolité. C'est parce qu'en février, les soirées sont plutôt fraîches à Rome et que le cuir est un très bon isolant. Bon, je vous laisse, le séminaire a commencé. On m'attend sur le dance floor. Les gardes suisses en slip sur la piste. Ouh ! Et c'est pas fini. Selon un article du Guardian paru avant-hier, le Vatican aurait édité un guide à destination des prêtres, pères de famille. À ce propos, écoutons un cardinal dans un enregistrement où il parle avec une mi-bonne sœur, soi-disant colocataire.
Avoir un seul enfant de toi.
Ah ouais, et qu'est-ce qu'elle a répondu?
Je t'aime.
Ouh.
Je t'aime. Oui, je t'aime.
Ok, je vois le genre. Et pour finir... Des choses qui arrivent, mais bon, plutôt étrange hein, cette colocation.
Tout autre sujet qui hérisse le monde de l'éducation, la loi pour l'école de la confiance qui a été votée mardi dernier à l'Assemblée. Notre enseignante mécanicienne humoriste Nicole Ferroni s'alarme.
Eh oui, que j'aime parce que je ne vais pas être bouche cojue devant ce qu'on fait à l'école, puisque en tant qu'ancienne enseignante, je le sais et je vais le dire normalement, l'école est le meilleur véhicule qui soit pour mener une nation vers un avenir meilleur. Et parce que notre école justement tousse du moteur, oui, parce que les conducteurs, professeurs, comme les passagers élèves attendent depuis longtemps qu'un ministre garagiste vienne les remorquer avec une loi bien adaptée, on se disait « Chouette, Monsieur Blanquer a une loi, l'école de la confiance, elle nous tirera de là !» Mais est-ce que quelqu'un s'est assuré d'abord que toutes les voitures avaient un rétro? Ou du moins que tous les élèves étaient dans une voiture? Alors en effet, si les professeurs comprennent la portée pédagogique des symboles communs, beaucoup rappellent que leur problème du moment, ce n'est pas « Oh là là, mais où va-t-on mettre le drapeau au-dessus du bureau ?» Non, c'est plutôt « Ah là là, est-ce qu'on a assez de bureaux dans cette classe ?» Non, même pas. C'est « Est-ce qu'on a assez de classes dans cette école ?» Mais non, même pas. C'est « Est-ce qu'il nous reste une école dans cette ville ?»
Et puis bien sûr aussi cette semaine, la disparition de Karl Lagerfeld. Et cette question, a-t-on le droit de nommer son animal de compagnie comme héritier? Tanguy Pastureau a mené l'enquête.
En France, non, parce qu'on vit dans le déni. On pense qu'un enfant est mieux qu'un animal de compagnie. Alors que pas du tout. Prenez un poisson, il vit dans l'eau. Une fois par jour, vous lui donnez à manger. Philippe Lucas a longtemps fait la même chose avec leur manodou. Bah, il était heureux. Hein. Jamais vous n'aurez à vous rendre aux réunions parents-prof de votre teckel. Ou alors, c'est soit que le teckel est très intelligent, soit que vous vous êtes pris pour Camille Alban et avez raté votre fils à un point tel qu'on le prend pour un teckel. Mais dans d'autres pays, ça se fait. En Allemagne, en 91, le chien de la comtesse Carlotta Liebenstein a légué l'équivalent de 70 millions d'euros à son chien Gunther III. Il est allé à la Barclays et dit « Maintenant, les mecs, c'est fini l'époque où je restais devant la porte attaché. » Résultat, le fils de Gunther III, Gunther IV, les noms des chiens, ça marche comme pour les rois, hein,
ouais,
a touché à la mort de son père 300 millions d'euros. Donc, en théorie, Gunther V sera plus riche que Bernard Arnault. Bah, Choupette se retrouve donc avec une somme d'argent démente à gérer. Si en 2022, c'est la France insoumise qui passe, ils vont lui prendre 80% de ce qu'elle a et la foutre à la SPA.
Une disparition qui en a éclipsé une autre, celle du créateur de la maison Manfroid, le plus grand chauffagiste de sa génération. Charline Vanhoenacker tenait à lui rendre hommage.
Il a chauffé les plus grands, hein, l'appartement de Catherine Deneuve, la villa de Jean Dujardin, la piscine de Taquiedine, on l'appelait le Kaiser du radiateur. Gérard a su prendre la température de son époque. Il avait d'ailleurs inventé la température idéale, le 21.1. C'était son bleu clin, lui. Alors, on est en ligne avec Inès de la Prestance, depuis Marrakech. Inès, vous étiez là à ses débuts quand il a lancé la clim.
Oui, et ce que j'appréciais chez lui, c'était sa fraîcheur. Il savait mettre sa touche dans l'air ambiant de façon discrète, mais totalement assumée. Aujourd'hui, c'est tout le monde de la climatisation qui est en deuil. Ils sont peu nombreux, ceux qui savent brasser l'air comme Gérard.
Ouais. C'est vrai qu'il était capable de démonter une chaudière pour un simple souci de condensateur. Et on mesure sa popularité sur Instagram. À qui posera avec son selfie avec Gérard, hein, mais même ses anciens ennemis, je pense au PDG de Climomax qui posait avec lui pour la couve de Thermostat Magazine. Alors c'est vrai, il pouvait avoir des prises de position clivantes, un franc-parler qui pouvait parfois être glaçant, mais bon, il avait tellement de talent.
C'était la semaine des humoristes de France Inter. À suivre dans le grand face-à-face, le duel Polony-Finkelstein.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Natacha Polony et Gilles Finkelstein, on va commencer les amis avec la question de l'antisémitisme et la République face à la montée de l'antisémitisme. Mardi dernier, le jour même des rassemblements contre l'antisémitisme, un cimetière juif était profané dans le Bas-Rhin. Un discours très attendu, celui que devait prononcer le président de la République au dîner du CRIF mercredi.
L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. Regardez ensuite la réalité en face. Oui, à côté, malheureusement, de l'antisémitisme traditionnel, se déploie un antisémitisme fondé sur un islamisme radical.
Emmanuel Macron, donc mercredi dernier, Emmanuel Macron souvent et régulièrement applaudi tout au long de son discours. Natacha, vous avez imaginé l'expression de quenellisation des esprits. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, c'est ce que nous avons mis en une de Marianne cette semaine. Pourquoi? Parce que on parle depuis très longtemps de l'eupénisation des esprits, mais en fait, ce qui est frappant quand on regarde aujourd'hui le visage de l'antisémitisme, c'est que il y a une diffusion des thèses de Soral et Dieudonné à travers justement ce signe qui est devenu totalement symbolique, celui de la fameuse quenelle. La quenelle qu'on voit maintenant faite par des gens qui le font pour rigoler, qui le font pour expliquer que pas du tout, c'est pas un geste antisémite, c'est juste un geste antisystème. Et la force de Dieudonné, c'est d'avoir réussi à faire croire qu'en effet, c'était ça l'antisystème. C'est une puissance de feu majeure, ça fait des décennies que Soral et Dieudonné travaillent les banlieues. D'ailleurs, en 2009, quand ils avaient fait leur liste antisioniste, Soral avait déclaré « La France black blanc-beurre, c'est nous, et nous allons la faire contre l'ennemi commun ». C'est ça, l'ennemi commun, c'est quoi? Alors, on ne dit pas les juifs, bien sûr, c'est beaucoup plus simple. On dit les sionistes. Ça permet de ne pas passer devant les tribunaux. Lutter contre ça, ça va prendre énormément de temps parce que c'est une lutte culturelle. Ce n'est pas pour rien que la maison d'édition de Soral s'appelle Contre-Culture. Il va falloir mener une bataille idéologique dans les banlieues, chez les jeunes, sur les réseaux sociaux, sur Internet.
Gilles ?
Oui, le mot sionisme est une forme d'euphémisation du mot juif pour essayer de transformer un délit en opinion. Donc on a un antisémitisme qui s'est diversifié, le président de la République l'a dit, c'est tout ça est documenté maintenant depuis des années. On a beaucoup parlé, et à raison, de l'augmentation des actes antisémites l'année dernière.
Plus 74%, le chiffre était sidérant.
Oui, la réalité est que ce n'est pas une augmentation d'une année sur l'autre. La vérité, c'est que ça fait 20 ans que le niveau des actes antisémites est très élevé. Là, le chiffre est spectaculaire parce que pendant 2 années, il y avait eu une baisse et que donc, en pourcentage, la progression est spectaculaire. Mais le nombre d'actes, depuis le début des années 2000, se situe à un niveau très élevé. La moitié des actes racistes concernent aujourd'hui les juifs. Donc, on a là-dessus sur les actes. Et en même temps, et il faut essayer de penser les deux. Et ça n'a pas été dit. L'opinion antisémite a diminué dans notre pays sur longue période.
L'opinion antisémite, oui. Qu'est-ce que c'est ?
Je n'aime pas les juifs. Je ne voudrais pas que ma fille épouse un juif. Je ne voterai jamais pour un président juif. Prenez juste ce point-là. Au début des années 60, vous aviez la moitié des Français qui disaient « je ne pourrais pas voter pour un candidat à la présidence de la République qui est juif ». Il n'y en a que 10% aujourd'hui. Donc on a les deux phénomènes en même temps. Réduction de l'antisémitisme, des opinions antisémites, persistance d'un niveau de préjugés antisémites, les juifs c'est l'argent, les juifs c'est le pouvoir, et augmentation spectaculaire depuis 20 ans des actes antisémites.
Natacha. Oui, nous avons fait un sondage qui va exactement dans ce sens-là, dans Marianne, et qui montre qu'en effet, il y a même eu un sursaut là, qui est sans doute dû aux événements, et qui fait que même ces préjugés de fond antisémites sur les juifs et les médias, les juifs et l'argent, sont en légère baisse par rapport à il y a 2 ans, par rapport à il y a 4 ans. En revanche, ce qui est intéressant aussi dans le sondage que nous avons publié, c'est la question de l'antisionisme, justement. Parce qu'on s'aperçoit d'abord qu'une bonne part de la population ne sait absolument pas ce qu'est le sionisme, et donc on a une proportion assez inquiétante de gens qui mélangent totalement la question de l'existence de l'État d'Israël, la question de la critique légitime de la politique menée par Israël, en particulier par Benjamin Netanyahou, sur les colonies, et puis cette espèce de fantasme de un lobby qui contrôlerait le monde, parce que aujourd'hui, quand les séides de Dieudonné parlent du sionisme, c'est de ça qu'ils parlent. Et l'agresseur de Finkielkraut, c'est de ça qu'ils parlent, de cette idée qu'il y aurait des privilégiés qui essaieraient de contrôler le monde. C'est
exactement. Mais comment faire la part des choses, justement, pour punir ce qui est condamnable et laisser s'exprimer ce qui relève de l'opinion, à savoir la critique, par exemple, de la politique menée par le gouvernement d'Israël.
Emmanuel Macron a eu raison de ne pas retenir cette idée stupide de faire une loi spécifique pour criminaliser l'anti-sionisme, parce qu'en effet, c'est un problème de définition extrêmement fine, et que c'est chacun, entendant le discours, qui peut savoir exactement où l'on se situe. Il est parfaitement légitime aujourd'hui de considérer que la politique de colonisation d'Israël est une folie, et que la façon dont est traité le peuple palestinien est absolument scandaleuse. En revanche, on sait très bien, quand on entend quelqu'un crier « sale sioniste », ce qu'il veut dire.
Gilles.
Oui, je disais tout à l'heure qu'il y avait une sorte d'euphémisation pour transformer un délit en opinion, et donc pour passer de l'antisémitisme à l'antisionisme. Dès lors, la tentation de criminaliser l'antisionisme peut être la marche d'après. Et je crois effectivement que le président de la République, qui d'ailleurs était une des demandes du CRIF, je pense que le président de la République a eu raison de ne pas y aller. Je crois que la question n'est pas de criminaliser l'antisionisme, elle est de questionner les antisionistes. Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous vous dites antisioniste ? Est-ce que c'est de critiquer la politique du gouvernement israélien ? C'est évidemment totalement légitime et je ne suis pas le dernier à le faire. Est-ce que c'est de remettre en cause l'existence même de l'État d'Israël ? Et si c'est ça, pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez en tête derrière ? Au début de la création de l'État d'Israël, le paradoxe est que des Juifs eux-mêmes,
bien sûr,
s'opposaient à la création. Soit une partie très à gauche, la partie des bundistes qui voulaient que les Juifs s'émancipent dans leur propre pays, soit les hyper-religieux qui disaient il faut attendre l'arrivée du Messie avant de créer un État juif. Mais aujourd'hui, 70 ans après, quel est le sens de cette volonté de rayer l'État d'Israël de la carte ? C'est ça, il faut renverser la logique et interroger les antisionistes.
Mais qui posera la question, justement, Natacha ?
Encore une fois, qui la posera et à qui on la posera ? Parce qu'il y a le problème, c'est que le discours de Soral et Dieudonné, il est entendu et écouté par un public extrêmement jeune qui adhère à cette image de contre-culture et d'antisystème. Et c'est cela qu'il faut combattre. Simplement, je suis un peu étonnée de voir que la décision finalement qui ressort du discours d'Emmanuel Macron, c'est de dissoudre trois groupuscules proches des néo-nazis qui sont absolument ignobles, on est d'accord. Mais je suis pas sûre que ce soit ceux-là qui aujourd'hui pratiquent cet antisionisme particulièrement vicieux qui est soutenu par ce qu'on appelle la mouvance islamo-gauchiste. Donc on s'attaque à des groupuscules parce qu'ils sont identifiés, c'est facile. Ça donne l'impression que l'État agit. Mais le travail doit se faire par la culture, justement, par le savoir à l'école, c'est-à-dire lutter contre l'obscurantisme par le règne de la raison. Et ça, c'est un travail de très longue haleine.
Encore un mot, Gilles, sur le sujet.
Juste un mot, si on veut être juste, ce n'est pas la seule décision, puisque dans le même temps a été annoncée aussi une proposition de loi luttant contre la haine sur Internet, qui concerne l'antisémitisme, mais pas seulement, l'antisémitisme, qui renvoie à un débat que nous avions eu lieu ici la semaine dernière sur la question de l'anonymat, où je disais que la bonne question n'est pas celle de l'anonymat, la bonne question c'est de mettre en cause la responsabilité des sites eux-mêmes, non pas nécessairement en amont, mais pour que dès lors qu'un acte antisémite ou autre soit signalé, ce soit retiré. Et que ce soit retiré rapidement, je crois que c'est ça l'enjeu. Et si dans le discours d'Emmanuel Macron ça aboutit déjà à ça, ça sera un progrès.
Le grand face-à-face sur France Inter.
Autre temps fort de l'actualité cette semaine, c'était la remise du rapport de la commission d'enquête du Sénat sur la, ou plutôt sur les affaires Benalla. Écoutez son président Philippe Bas, il était l'invité de France Inter.
Le Sénat, dans nos pouvoirs publics, est une assemblée libre, indépendante et non alignée. C'est même la seule. Elle peut donc avoir un rôle de contre-pouvoir, de contre-poids. Et tout notre travail s'est fait sous le regard des Français, avec l'intention d'accomplir une œuvre de vérité, et je les laisse juges. Ils ont pu voir comment nous nous sommes comportés.
Les Français sont juges, le Premier ministre Édouard Philippe également. Il réagissait ce jeudi sur la remise de ce rapport. Écoutez-le.
La commission d'enquête du Sénat et le Sénat ont choisi de se livrer à une appréciation qui est, je crois, très politique. Je n'en suis pas surpris, mais comme j'ai un attachement très vif et très grand au principe de séparation des pouvoirs, j'en suis un peu déçu. Dans ces temps compliqués, il appartient que chacun respecte les prérogatives qui lui sont réservées par la Constitution.
Alors, à quelque chose malheur et bon, on va tous finir par devenir spécialistes de la Constitution. On cite l'article 24, l'article 51, alinéa 2. Le Sénat a-t-il violé le principe de la séparation des pouvoirs, Natacha ?
Il ne me semble pas qu'en interrogeant des proches de l'Élysée et des membres du cabinet sur cette question qui tout de même a révélé qu'elle était absolument tentaculaire, le Sénat est en quoi que ce soit outrepassé son rôle. Je pense qu'il apparaît au fur et à mesure de cette affaire que tout cela méritait d'être un tout petit peu raconté, présenté devant les Français, et que pour l'instant, ce qui devrait choquer le gouvernement, ce sont les soupçons de mensonges sous serment, la façon dont Alexandre Benalla n'a pas respecté son contrôle judiciaire. Ça devrait choquer. Donc, moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est la virulence avec laquelle certains membres du gouvernement sont montés au créneau. Je pense qu'ils feraient mieux de se taire.
Gilles.
On a dit que le rapport du Sénat était accablant. C'est un rapport, quand on le lit, qui est un rapport très clinique, comme souvent d'ailleurs les rapports de commissions d'enquête. Et donc, c'est pas le rapport qui est accablant, ce sont les faits. Ce sont l'exposé du déroulement des faits qui sont accablants à la fois pour Alexandre Benalla et pour la manière dont les pouvoirs publics ont réagi. Et dans la manière dont ils ont réagi, encore une fois, mais c'est une leçon depuis le début de cette histoire, et donc c'est fascinant que ça se répète, à chaque fois que le gouvernement et la majorité parlent de cette affaire, il ferait mieux de se taire. Lorsque le porte-parole du gouvernement, dans la même phrase, explique qu'il n'a pas lu le rapport, ça, c'est le début de la phrase. Et à la fin de la phrase, que le rapport contient beaucoup de contre-vérités, on s'est dit, mais le mieux est de se taire. Lorsque maintenant le Premier ministre se dit déçu, je suis sûr qu'il avait fondé beaucoup d'espoir dans ce rapport, donc je comprends qu'il soit déçu. Là aussi, et ce procès sur la séparation des pouvoirs révèle, je crois, d'une incompréhension. Soit...
Non, il y a les débats de juristes et puis il y a les questions politiques. Est-ce que Édouard Philippe, le Premier ministre, a complètement tort ?
Je crois qu'il a tort. Si on entend par séparation de pouvoir entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, là, l'article 24 que vous citiez, le Parlement contrôle l'action du gouvernement, et donc pas du président de la République. S'il s'agit du président de la République, il faut distinguer ce qui relève des actes du président de la République et ce qui relève de l'administration de l'État et notamment de l'administration de l'Élysée. Ce n'est pas la première fois que des membres de l'Élysée sont entendus par des commissions d'enquête. Dans les deux quinquennats précédents, cela a déjà été le cas. Ça fait maintenant de nombreuses années que la Cour des comptes contrôle le budget de l'Élysée. Ça fait de nombreuses années que la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui est une autorité administrative indépendante,
dont nous apprenons l'existence grâce à vous.
Bah voyons, Ali.
Qui est une
je parle pour moi.
Très importante, c'est elle qui, lorsque vous demandez à l'administration l'accès à un document et qu'il vous est refusé, c'est elle qui oblige l'administration à vous les donner. Eh bien, elle le fait également pour l'Élysée. Donc, il y a une forme de banalisation de ce qu'est, en tant qu'institution, je ne parle pas des pouvoirs du président de la République, l'Élysée, et ça me paraît tout à fait légitime, d'autant plus légitime que l'Élysée n'est plus ce qu'était l'Élysée du temps du général de Gaulle et que l'Élysée intervient de plus en plus dans la conduite des affaires du pays.
Malgré tout, comment prendre au sérieux, et là je me fais l'avocat de votre diable, comment prendre au sérieux l'impartialité d'une commission d'enquête qui est présidée par un membre du Parti Les Républicains, donc un opposant politique au président de la République ?
On a vu ce que donnait une commission quand elle est, quand elle se passe à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire quand elle ne concerne que les membres du parti au pouvoir. On voit très bien ce que ça donne. L'existence d'un contre-pouvoir ne me semble pas totalement néfaste en démocratie et je pense que le fait qu'il reste une opposition devrait au contraire nous rassurer. Ensuite, les sénateurs n'ont pas outrepassé leur rôle et je rejoins totalement ce que disait Gilles à l'instant. Simplement, il y a derrière une question politique. C'est-à-dire qu'il y a la question administrative, la façon dont le Sénat a opéré, et puis il y a ce que nous raconte cette histoire depuis le début. Enfin, souvenons-nous tout de même que la démission de Gérard Collomb s'est faite dans des conditions absolument effarantes. Gérard Collomb, un des plus proches d'Emmanuel Macron, et qui a démissionné parce que cette histoire a gangréné totalement le pouvoir en place. La démission ensuite d'Ismaël Emelien, la défection. On est certain qu'Ismaël Emelien, bien sûr, va écrire un livre sur le progressisme que la France attend et que c'est uniquement pour ça qu'il démissionne, bien entendu. Donc, tout cela est en train de déstructurer totalement la machinerie macronienne. Il y a un énorme problème politique derrière tout ça.
Écoutez, autant je partageais pas les critiques qui ont été faites contre le Sénat sur la question de la séparation des pouvoirs, autant je ne partage pas toutes les propositions, parce que au final, ce rapport est là pour faire aussi un certain nombre de recommandations, et c'est intéressant de les lire. Beaucoup de ces recommandations sont des recommandations de bon sens. En revanche, si on les lit bien, il y en a une ou deux, je les cite juste, qui me paraissent dangereuses. Le Sénat considère qu'il faut mettre fin à une pratique qui est une pratique nouvelle, qui est qu'il y ait des conseillers communs entre le président de la République et le Premier ministre. C'est pour la première fois, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont des conseillers communs. Moi, je pense que c'est une excellente idée, que pour lutter contre les dysfonctionnements liés à des doublons sur des postes qui n'ont, ça n'a strictement aucun sens que le président de la République et le Premier ministre aient l'un et l'autre un conseiller qui s'occupe par exemple du logement. C'est à Matignon qu'il doit être parce que c'est là que c'est géré et c'est, en tant que de besoin, il est aussi le conseiller du président de la République. Si vous avez un conseiller pour chacun des sujets, pour chacune des deux têtes de l'État, c'est une source de dysfonctionnement. Et donc, il faut regarder les propositions et il faut les examiner, voir celles qui sont bonnes. Certaines le sont, d'autres ne le sont pas. Je crois qu'il faut avoir le débat au fond et pas ce débat seulement sur la question juridique de la séparation des pouvoirs.
Le grand face-à-face, Ali Badou. Sur France Inter.
J-100 avant les élections européennes et Gilles, vous avez retenu l'étude de l'Institut Kantar pour le Parlement européen, un sondage qui indique que l'issue la plus probable des prochaines élections européennes, ce sera de voir un Parlement éclaté comme jamais. C'est à prendre avec des pincettes, mais il est peu probable qu'une majorité d'extrême droite eurosceptique prenne le contrôle du Parlement européen. Et en revanche, il est très probable que le PPE et le PSE, c'est la droite et la gauche européenne, n'auront plus la majorité absolue à eux seuls et qu'ils devront s'allier aux libéraux ou aux verts. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette étude-là ?
Alors, vous avez presque tout dit. Ce qui m'a attiré, c'est que trop souvent, l'analyse que l'on fait des élections européennes sont des analyses nationales où on ne regarde chacun que les résultats dans son propre pays. Et que pour la première fois, c'est un regard européen qui est porté sur un scrutin européen. Donc ça, je pense que c'est cet effort-là qu'il va falloir essayer de faire dans les 100 jours qui nous séparent de ces élections. Et puis, il y avait
c'est
un enseignement... Non, c'est loin d'être gagné. Et puis, il y avait un enseignement que vous avez évoqué, le fait que ce mythe qui court depuis des semaines et des semaines de voir l'extrême droite gagner les élections et avoir une majorité au Parlement européen. On voit que quand on regarde pays par pays les résultats, que ce mythe est un mythe. Et ça va permettre d'avoir, je crois, un meilleur débat pour ces élections, de savoir plutôt quel type d'Europe on veut, et entre le PPE, le PSE, entre donc les démocrates chrétiens et les sociodémocrates et les écologistes et toutes les autres forces pro-européennes qui s'engagent dans ce combat-là, il y a des différences et je crois que ce débat-là est plus important que simplement se polariser sur le risque de voir l'extrême droite dont on mesure que ce n'est pas une réalité.
Natacha.
Alors, ce que nous dit le sondage Kantar Public pour la Commission européenne est assez intéressant sur la perception que les Européens ont de l'Union européenne. Il y a énormément de données et on s'aperçoit que les Français, par exemple, sont attachés à l'Union européenne. Hein, 59%, c'est beaucoup moins que la moyenne en Europe, qui est à 65%. C'est beaucoup moins que les Lituaniens, les Allemands et même les Hongrois, 80%. Les Hongrois sont très attachés à l'Union européenne. Bon, les Français, c'est pas beaucoup, mais ils y croient. Et c'est ça qui est très intéressant. On voit qu'ils aiment pas seulement les trucs anecdotiques, la liberté de voyager ou les choses comme ça. Ils sont, 44% à trouver que l'euro est très positif. Donc, il y a un potentiel d'amour. Et il y a une énorme défiance vis-à-vis des institutions européennes. On est parmi les plus défiants, d'ailleurs, 57% de défiance.
Nous, Français.
Voilà. Et ça n'empêche pas les Français de vouloir plus de décisions, notamment en politique étrangère, en question énergétique. Alors, il me semble qu'on peut interpréter ça comme un appétit d'Europe, un appétit pour une Europe politique, pour une Europe qui sache défendre les intérêts des citoyens. Et du coup, une forte déception vis-à-vis de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne maintenant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rôle d'une campagne européenne comme celle-ci devrait être de débattre du fond, c'est-à-dire concrètement de ce que nous devons défendre, ce que doit être l'Union européenne en matière énergétique, en matière numérique, en matière monétaire, et pas de nous demander s'il va y avoir de l'extrême droite, du populisme, des méchants et des gentils.
Et c'était le titre de Libération hier, justement, et pourtant il peut gagner. C'est le président de la République, plus impopulaire que jamais il y a encore quelques semaines, Emmanuel Macron, qui pourrait sortir en tête des urnes en mai, Gilles.
Écoutez, là encore
cette dimension, elle existe malgré tout, cette lecture nationale du scrutin.
Évidemment, elle existe en France, elle existe dans tous les autres pays, même si elle existera en l'espèce d'autant plus que c'est le premier scrutin national depuis la séquence électorale de 2017. Et on est pour l'instant dans cette situation où le président de la République est à la fois, en même temps, impopulaire et potentiellement dont le parti peut être en tête à ces élections, ou en tout cas pas loin du Rassemblement National.
Le grand face-à-face sur France Inter.
Est-ce que c'est votre moment préféré de l'année, Natacha ? Le salon de l'agriculture qui ouvre ses portes, les enfants des villes qui peuvent aller voir à quoi ressemble une vache, une poule ou une chèvre pour de vrai.
Alors j'adorerais que les enfants des villes puissent aller voir à la campagne à quoi ressemble une vache, une poule. Et je pense qu'il n'y a rien de plus sain pour un enfant que de comprendre ce qu'est la nature et de s'y confronter. Le salon de l'agriculture est devenu une grande foire de l'agro-industrie, de la grande distribution. Quand on voit que les principaux sponsors sont Danone, McDonald's, Carrefour, on a envie de pleurer. C'est-à-dire que ce sont, en gros, ceux qui aujourd'hui sont en train de fragiliser les paysans français qui sont à l'affiche. Alors, malgré tout, il y a une résistance. Nos paysans sont dans un état dramatique. La puissance de la FNSEA, qui est le syndicat majoritaire et qui cogère tout, c'est absolument épouvantable. C'est-à-dire que la FNSEA tient les chambres d'agriculture, donc les paysans sont quasiment obligé d'adhérer pour obtenir des crédits. Pour obtenir... C'est tout ce système-là qu'il faut démonter pour aller vers une autre agriculture. Et c'est extrêmement important. Ça existe. Potentiellement, ça rend les paysans plus heureux. Ils gagnent mieux leur vie. Et c'est meilleur pour nous aussi.
C'est un salon qui se tient au moment où on apprend une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il y a un record de conversion des agriculteurs au bio en 2018. La mauvaise, c'est qu'il y a un effet paradoxal. Le succès du bio fait que l'agriculture bio risque de devenir industrielle, qu'elle risque de changer d'échelle. En Italie, on découvre qu'il y a des élevages bio de poules pondeuses qui peuvent compter 100 000 poules.
Non mais ça n'a
c'est
plus aucun
ahurissant.
Sens.
Alors, on est, Gilles, si on se place dans une histoire très longue, on est à un vrai moment de rupture historique où, pour la première fois, l'humanité a quasiment éradiqué la question de la famine. Je reprends la formule de Noah Yuval Harari, vous savez, l'auteur de Sapiens, dans son deuxième livre qui s'appelait Homo Deus. Il disait, pour la première fois, on meurt plus de manger trop que de manger trop peu. Et c'est une rupture historique. Ce faisant, la question de la qualité de l'alimentation est devenue un sujet majeur dans le monde entier, et notamment, évidemment, dans les pays développés. Et la question du bio en est une illustration. Quand vous regardez l'évolution du marché du bio, ne serait-ce que sur les 15 dernières années, donc sur une période très courte, c'est un marché en pleine explosion. Ça représentait 2 milliards d'euros en 2002. C'est aujourd'hui 9 milliards d'euros, il y a peu de marchés qui évoluent autant. Et donc la question est de savoir comment on répond à cette augmentation de la demande en gardant des prix qui restent attractifs, en tout cas possibles pour les consommateurs, sans que la qualité elle-même soit affectée.
Natacha.
Quelques points. Il y a d'abord l'enjeu de préserver la fertilité des sols, la biodiversité. Donc, aller vers le bio, aller vers une agriculture qui respecte les sols est absolument essentiel. Deuxième point, il y a la question du pouvoir d'achat. Et là, il faut, à un moment donné, aussi revenir sur tout ce mouvement qui a consisté pendant des décennies à expliquer aux gens que le poste alimentaire était celui qu'ils pouvaient sacrifier, qu'on allait leur donner à manger moins cher et que comme ça, ils pourraient dépenser pour tout le reste. Ça, c'est une aberration et ça crée de la souffrance, de la maladie et du malheur. Et dernier point, en revanche, le bio n'a de sens. D'ailleurs, je me réfère à Frédéric Danhé, journaliste en particulier sur France Inter, qui a écrit des livres qu'il faut lire là-dessus et qui parle non pas du bio, mais de la bio. C'est-à-dire
la bio.
Oui, toute la philosophie et la façon de faire de l'agriculture biologique, c'est-à-dire avant tout de respecter une agriculture paysanne et locale. Si c'est du bio à grande échelle et pour faire des produits transformés, ça n'a rigoureusement aucun sens. Il vaut mieux dans ces cas-là avoir des produits locaux en agriculture raisonnée. Donc ce qui compte, c'est de réfléchir à la façon dont nous achetons les produits dans un cycle économique qui est un cycle relocalisé, qui respecte la terre et qui respecte les saisons.
Encore un mot, Gilles, oui, sur le sujet,
juste
avant de passer au débat.
Ce n'est pas seulement une question de santé publique, il y a aussi derrière une question sociale. Quand vous regardez sur 50 ans la manière dont les Français dépensent leur argent, le poste de l'alimentation représentait 35% il y a 50 ans, c'est 20% aujourd'hui. Et lorsque vous leur demandez si vous aviez 10% d'argent supplémentaire, qu'est-ce que vous en feriez? Les plus riches répondent des loisirs. Les plus pauvres disent l'alimentation. Et donc, il y a un vrai sujet qui est un sujet de santé, mais qui est aussi un sujet social. Et c'est pour ça que cette question de avoir plus de bio, mais toujours du bio de qualité, est une question qui est absolument déterminante.
C'est social et c'est économique parce que nous faisons 3 actes alimentaires par jour. Donc, à l'échelle d'un pays de 66 millions d'habitants, ce sont des milliards d'actes alimentaires. Si nous choisissons de nous alimenter de façon locale, nous bouleversons l'économie.
Avant d'accueillir notre invitée Christine Pedotti, un mot, une question. Que pensez-vous de cette initiative lancée par cette jeune Suédoise, Greta Thunberg, militante écologiste, devenue une superstar de la lutte contre le réchauffement climatique depuis la dernière COP24 et qui a lancé cette idée d'une grève mondiale pour le climat des collégiens, des lycéens? Peuvent-ils sécher les cours le vendredi pour la bonne cause, pour manifester, Natacha? Vous leur donnez votre autorisation ou pas?
Non mais c'est très mignon, ça n'a rigoureusement aucun sens et je préférerais que tous ces lycéens réfléchissent à leur responsabilité de consommateurs, ce qui prouverait qu'ils s'émancipent d'une industrie qui petit à petit les aliène.
Vous les laissez sécher, Gilles?
Moi je crois que ça a beaucoup de sens, que c'est le signe d'une prise de conscience et que un des sens auxquels on devrait réfléchir, c'est que ces manifestations, elles se font contre nous. Contre les adultes.
Nous.
Contre nous, dont ils considèrent, et parfois à raison, que nous n'avons pas fait et que nous ne faisons pas ce qu'il faut pour lutter contre le changement climatique.
Mais quels seront leurs choix en matière économique, en matière de consommation? C'est cela qui peut changer aujourd'hui concrètement les choses. Nous avons consommer, se nourrir, c'est un acte politique. Et je préférerais que tous ces jeunes gens, petit à petit, luttent par ce moyen-là.
Oui, mais la manifestation est le début d'une prise de conscience. Après, il faut qu'elle soit suivie par eux et par nous d'actes.
Le grand face-à-face continue avec le débat.
France Inter. Le grand face-à-face. Le débat.
Le peuple de Dieu nous regarde et attend de nous non pas de simples et évidentes condamnations, mais de préparer des mesures concrètes et efficaces. Il faut du concret.
C'était le pape François jeudi en ouverture du sommet mondial sur la protection des mineurs dans l'Église qui se tient jusqu'à demain au Vatican. 190 évêques du monde entier réunis pour faire face au scandale de la pédophilie dans l'Église. Une crise grave, profonde. Et si, comme les civilisations, l'Église catholique était mortelle? Celle qui pose la question est catholique, engagée depuis longtemps, notamment pour faire la lumière sur les crimes de pédophilie dans l'Église et leur dissimulation. Directrice de la rédaction de Témoignages chrétiens, elle publie « Qu'avez-vous fait de Jésus ? Les silences coupables de l'Église » chez Albin Michel. Bonjour Christine Pedotti.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous posez des questions vraiment courageuses pour une croyante et je le dis très sincèrement avant d'entrer dans le débat de savoir si l'Église catholique romaine peut survivre à cette crise qui est l'une des pires, les plus graves qu'elle ait eu à traverser. Sur la base de la coupole de la basilique Saint-Pierre à Rome, qu'est-il écrit ?
Tu es Petrus, tu es Pierre.
Tu es Pierre ?
Oui. Alors c'est la base, hein, c'est une phrase de Jésus dans l'Évangile qui dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et au fond, le catholicisme se dit, appuyé sur cette phrase-là, je veux dire, on est là pour l'éternité, il ne nous arrivera rien.
Or, justement, l'édifice de la catholicité telle que nous le connaissons, c'est ce que vous écrivez, Christine Pedotti, il n'est pas garanti pour l'éternité. Il n'est pas garanti pour l'éternité par Jésus et de la faillite des organisations humaines.
Moi, je crois que les civilisations sont mortelles et que la catholicité telle qu'on la voit, avec, j'appelle Saint-Pierre de Rome, j'ai pas une grande sensibilité à la gloire baroque de Saint-Pierre de Rome, c'est quand même un énorme tas de pierres. Et en fait, historiquement, on sait que les tas de pierres, un jour, ça tombe. Donc, en fait, si le catholicisme est appuyé uniquement sur les pierres, sur cet édifice-là, il ne survivra pas. Je pense que la promesse que Jésus fait à son Église, il ne la fait pas à une superstructure, il l'a fait à ce qu'on appelle l'ecclésia, c'est-à-dire en fait cet ensemble de gens qui sont convoqués et qui suivent Jésus. Et donc peut-être que le système romano-catholique va vers une forme de mort. Mais je suis assez chrétienne pour dire que derrière une mort, il y a une résurrection. Donc l'histoire n'est pas complètement terminée.
Et justement, on va en parler. Natacha.
Il me semble qu'il y a la question immédiate qui est celle de la capacité de l'Église à enfin regarder en face ces scandales, à les affronter et à trouver des solutions. Et il y a un problème beaucoup plus profond et que vous montrez très très bien, puisqu'il est lié au rapport qu'entretient le catholicisme avec la chair. Et qu'en fait, c'est ce que vous expliquez, me semble-t-il, que le problème est que en cette matière, l'Église comprend systématiquement le problème de la pédophilie comme étant lié à la question du péché et du péché contre la chasteté. Et que donc, à partir du moment où le plus grave, c'est d'enfreindre cette règle de chasteté et non pas de faire du mal à des victimes, il y a une impossibilité de réforme. Derrière, c'est en effet toute la façon dont petit à petit, et je crois que c'est dans les premiers siècles chrétiens que ça s'est passé, l'Église catholique s'est construit une détestation de la chair et du corps qui aujourd'hui apparaît comme totalement malsaine.
Christine Pelletier. Alors,
c'est vrai qu'il y a dans les origines de l'Église quelque chose autour de la gnose et d'un dualisme. Il y a des influences manichéennes et quand on regarde les pères de l'Église, on voit que cette vision péjorative de la chair, mais aussi des femmes, parce
ça va
finalement ça va avec, voilà, a finalement nourri cette méfiance. Et puis il y a eu une forte influence grecque, c'est l'influence du platonicisme. Oui. Donc en fait, dans cette vision-là, au fond, on est référé à des idées, ce qui est absolument terrible, parce que le christianisme de Jésus est profondément ancré dans des expériences de relations.
C'est la religion de l'incarnation, voilà, surtout. C'est quand même
Je relisais, si vous me donnez une seconde, le texte qu'on connaît de la femme adultère, qui est un texte extraordinaire dans lequel un groupe d'hommes, au nom de la loi, jette un corps de femme sur les pieds de Jésus, littéralement, femme qu'on a prise en flagrant délit d'adultère. C'est une des rares fois dans l'évangile où on va parler de sexualité. Et elle est l'objet du délit pour les hommes qui sont là. Et en fait, tout le processus auquel Jésus va les engager, y compris en les renvoyant à leur propre péché, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, va avoir pour résultat de redresser cette femme et de la remettre en situation de sujet et non pas d'objet. Donc il y a là quelque chose qui se cristallise, on veut dire la leçon que Jésus donne sur le corps de cette femme, c'est une leçon qui est toujours valable pour nous aujourd'hui.
Gilles ? Oui, dans on est parti de la fin de votre interrogation sur est-ce que la religion catholique ou l'Église catholique est mortelle. Mais le point de départ, ce sont les scandales de pédophilie à l'intérieur de l'Église. Et je dois dire que moi qui ne suis ni catholique ni croyant, j'ai une forme de désarroi pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc dans les éléments que je peux mobiliser, toute institution court le risque d'une dérive lorsque elle fait primer l'idéologie sur la réalité, c'est-à-dire lorsque son système de représentation du monde lui permet de tordre la réalité, et lorsqu'elle fait primer l'organisation sur ceux qui la composent.
Vous parlez du marxisme-léninisme ou du catholicisme ?
Je parle de toutes les institutions. Et ce qui est intéressant avec votre livre, c'est que vous donnez des clés de compréhension, pour moi donc qui ne suis ni catholique ni croyant, dans ce que cette institution-là, dans son rapport à la chair, Natacha l'a évoqué, dans son rapport au pouvoir, dans son rapport au scandale, qui permettent de comprendre un peu mieux comment on en arrivait là, en espérant que ce qui s'est ouvert cette semaine, qui est quand même un moment historique, votre livre tombe, c'est sans doute pas un hasard, dans ce moment-là, permettent d'ouvrir une nouvelle page.
Christine Pedotti.
Alors, c'est vrai que ce qui se passe là, au Vatican, c'est le pape sonne l'alarme et on est en état d'urgence. Alors, évidemment, l'état d'urgence au Vatican, il faut 6 mois pour œuvrer, parce que le pape, il prend la décision au mois d'août et on rassemble les évêques au mois de février. Donc, ils ont un sentiment de l'urgence qui n'est pas tout à fait le nôtre, mais il faut dire que quand on a 2000 ans, c'est un peu normal.
Oui.
Mais, de fait, si on se contente dans cette affaire de pédocriminalité de soigner uniquement les symptômes et qu'on ne s'attaque pas aux causes...
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire au fond, si on dit simplement on va être de plus en plus vigilant, on va faire de la tolérance zéro, à l'instant où on voit un signe de pédocriminalité, on va arrêter les pédocriminels, je ne suis pas sûre qu'on obtienne le résultat. Parce que le pape, à mon sens, est aussi lucide que moi, aussi clairvoyant. Parfois on me dit que j'étais un peu rude dans ce livre, mais le pape lui-même dit il y a une culture de l'abus. Pour lutter contre une culture de l'abus, la seule solution, c'est de faire une révolution culturelle.
Mais qui doit juger ? Est-ce que c'est la justice des hommes ? J'ai donné la parole dans un instant à Natacha, mais est-ce que c'est la justice des hommes ou est-ce que c'est à l'Église elle-même ?
Sur la pédocriminalité, il n'y a pas deux discussions. Je veux dire, ça passe par la justice des hommes, évidemment.
Natacha.
Oui, mais vous dites en même temps qu'il y a une ambiguïté
considérable
dans la manière dont l'Église a géré ces histoires-là,
en faisant
primer très souvent, non pas la justice des hommes, mais la justice
de
Dieu.
En fait, si on ne s'interroge que sur la perversité des pédocriminels, je dirais l'affaire est simple. Mais si on s'interroge sur le processus de dissimulation massif qu'on a vu, alors le problème est compliqué.
Frédéric Martel, journaliste qui a une émission sur France Culture, sort un livre qui sort mondialement, qui s'appelle Sodoma et qui parle du grand tabou de l'homosexualité au Vatican. Et il raconte comment, là aussi, la question du célibat des prêtres, la question du vœu de chasteté joue un rôle en attirant vers l'Église des jeunes hommes qui se sentent homosexuels et qui ne peuvent pas l'assumer et qui du coup trouvent dans cet idéal de chasteté une façon peut-être de sublimer tout cela. Sauf qu'évidemment ça ne marche pas et ça crée dans l'Église une culture absolue du mensonge, dit-il. Et une sorte de dérèglement contre lequel le pape François est en train de lutter de façon violente. C'est ce qu'explique le livre, puisque on comprend mieux en fait toute l'histoire récente de l'Église et notamment les phrases du pape contre la curie quand on comprend qu'il y a derrière cette lutte contre un réseau de pouvoir lié à l'homosexualité. Et Frédéric Martel dit, en fait, le silence sur la pédophilie est peut-être aussi lié au fait que les prêtres pédophiles connaissent toutes les turpitudes de leur supérieur hiérarchique et que donc tout le monde en fait se tient dans un grand silence et un grand mensonge.
Christine Pedotti.
Je suis d'accord, j'en ai parlé avec Frédéric Martel, je suis d'accord avec la première partie de son analyse, c'est-à-dire la chape de silence. En fait, comme l'homosexualité est interdite en régime catholique, elle est illégale dans le système catholique. Donc on la cache. Et donc ça fait peser une énorme chape de silence et de dissimulation. Les pédocriminels profitent de ce silence parce que eux aussi, ils sont dans une sexualité qui est illégale et interdite. Sauf qu'elle est criminelle. Ce qui n'est pas la même chose.
Oui.
Et donc, en fait, cette chape de silence couvre les deux activités. Celle qui nous semble assez anodine, être homosexuel, et celle qui est évidemment gravissime, qui est le crime contre les enfants. Et le silence bénéficie aux deux. En revanche, là où je ne le suis pas, c'est sur l'hypothèse qu'il énonce, suivant laquelle les prêtres pédocriminels exerceraient un chantage sur les homosexuels. Ça, moi, je ne suis pas convaincue par la thèse. Mais je suis très convaincue par le silence qui pèse sur tout le monde et le mensonge généralisé.
Oui, vous montrez dans votre livre que le silence bénéficie aux deux parce que l'un comme l'autre se sont sous le signe du péché. Et il n'y a pas de gradation dans le péché. Un des points de convergence entre votre livre et celui de Frédéric Martel porte précisément sur la question du célibat des prêtres, qui est une des spécificités de l'Église catholique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est à un moment où une brèche peut s'ouvrir ou pas? Parce que ça ne renvoie pas seulement à cette question-là, ça renvoie aussi à la question de la chute des vocations et à une difficulté pour l'Église catholique elle-même de faire vivre l'Église catholique.
Oui. Christine Pedotti.
Ça, c'est une chose qu'il faut rappeler, pour le dire en termes contemporains. Voilà une société qui n'arrive pas à recruter son personnel d'encadrement. Donc ça pose, en termes de pérennité, ça lui pose effectivement un problème. Alors, moi, il me semble que le pape François, toute la complexité des mots et de la façon dont on parle au Vatican, dans l'avion l'autre jour, quand on l'a interrogé sur le concile en Amazonie, enfin le synode en Amazonie, dans lequel éventuellement on ferait une ouverture vers la possibilité d'ordonner des hommes mariés, il a dessiné un chemin. Alors ça nous paraît microscopique, hein, on se dit c'est un trou d'aiguille et on n'arrivera pas à passer par ce trou, mais comme on sait, les chameaux passent.
Les chameaux peuvent passer, oui.
Voilà. Donc à mon avis, oui, il ouvre cette brèche, mais ce sera, il aura une bataille considérable contre lui, parce que il faut imaginer quand même, nous savons le poids des administrations dans nos mondes. Il faut imaginer que la Curie, c'est une administration qui existe depuis 8 siècles. Donc sa capacité de résistance est hors du commun.
Mais vous allez plus loin dans vos livres puisque vous posez la question de la place des femmes finalement. Parce que ce n'est pas seulement la question du célibat des prêtres. Derrière le célibat des prêtres, il y a le rapport aux femmes. Mmh. Et du coup, la place que l'Église peut accorder à ces femmes, et vous le rappelez dans votre livre Jésus, l'homme qui préférait les femmes, quand on sait que Jésus, dans les figures historiques et religieuses, est un de ceux qui est le plus entouré de femmes et qui donne leur place aux femmes. Or, cette Église s'est construite autour d'hommes qui, petit à petit, ont considéré la femme comme uniquement l'objet et l'objet du péché. Et est-ce que le célibat des prêtres suffira? Ça permettra sans doute de régler certaines misères sexuelles et certaines, parfois, fragilités qui se retournent contre des victimes. Mais c'est aussi la question de savoir si les femmes peuvent exercer un rôle
Ça, vous y êtes
un ministère dans
vous êtes favorable à l'ordination des femmes, Christine Pelletier.
Oui, bien sûr. Alors, en fait, je vais me faire avec un bémol, c'est que si on transforme les femmes en prêtres tels qu'on a des prêtres aujourd'hui, faut surtout pas y aller. C'est le pire des jobs. Donc, il faut changer la façon de réfléchir. Il faut imaginer quand même que l'Église, elle est atteinte en son cœur parce que il y a plus de 8 siècles qu'elle est appuyée sur son clergé. Et sans cesse, quand elle a eu des problèmes, elle a réagi en disant il faut que le clergé il soit plus pur, il soit mieux formé, etc. On le voit au moment de la réforme grégorienne, il y a même 9 siècles. On le voit de nouveau au moment de la contre-réforme. On va encore faire des efforts au cours du 19e siècle. Je veux dire, il y a une sorte de phalange qui est le clergé et tout pose dessus.
Et ce modèle-là est à bout de souffle.
Ah ben oui, parce que le poison est à l'intérieur à 2 titres. D'abord parce qu'on le recrute plus ou plus suffisamment, et qu'ensuite il y a ces drames de pédocriminalité à l'intérieur, etc. Donc, en fait, le modèle est exsangue. Alors, en même temps, si on est catholique, il y a une forme de clergé. Je veux dire, quand on est catholique, on va à la messe. Il faut bien qu'il y ait des gens qui célèbrent la messe. Il faut bien les désigner pour célébrer la messe, les sacrements, etc. Moi, je dis, il y a 4 curseurs aujourd'hui sur ce que c'est qu'être prêtre. Aujourd'hui, c'est pour la vie, à temps plein, célibataire et homme. 4 curseurs, moi je propose qu'on bouge les 4. C'est-à-dire éventuellement, pas pour toute une vie, peut-être pour un temps, les vies sont longues aujourd'hui, pas forcément à plein temps, c'est pas forcément toute une vie donnée, pas nécessairement célibataire et pas nécessairement des hommes. Vous voyez que je suis prête à faire la révolution.
C'est malgré tout, Christine Pedotti, la seule religion monothéiste, peut-être la seule religion tout court, à faire cet exercice auquel est confrontée l'Église catholique romaine aujourd'hui. Assez paradoxal. Donc, est-ce que c'est quelque chose de positif ou vraiment négatif?
Parce qu'en fait, il se trouve que le christianisme et le catholicisme en particulier a un rapport d'une étrange ambiguïté avec la modernité. Puisque, en fait, ma conviction, c'est qu'à la fois, il la produit et il se bat contre. C'est-à-dire qu'au fond, l'émancipation des femmes qui a lieu en Occident, c'est un fruit évangélique. C'est un enfant naturel du christianisme que l'Église n'est pas capable de reconnaître. Donc, en fait, elle produit à la fois, je dirais, les contrepoisons et le poison. Et la modernité est un fruit du christianisme, est un fruit que les églises ne reconnaissent pas. Et c'est pour ça qu'on est devant cette situation paradoxale.
Natacha. Mais
c'est vrai que la question du rapport à la modernité est absolument essentielle. Beaucoup de catholiques vous disent, mais après tout, heureusement que l'église ne se fond pas dans la modernité, heureusement que l'église reste un pilier qui préserve ses dogmes. Et oui, pourquoi pas? Simplement, la question, est-ce que un personnage comme le pape François ne peut pas incarner justement ce qu'il y a à prendre dans la modernité, c'est-à-dire cette compréhension qu'il faut préserver quelque chose qui va lutter contre le règne de l'argent, contre le capitalisme, contre la destruction de toute forme de spiritualité humaine, tout en étant dans la lutte contre les archaïsmes. Quelle vision avez-vous de lui?
Oui, et peut-être pour compléter la question de Natacha, quelle est la capacité d'un pape et quelle est la capacité, en l'espèce, de celui-là, qui semble différent de beaucoup de ses prédécesseurs, de réformer l'Église catholique? Parce que vous disiez tout à l'heure, quand on est catholique, on va à la messe. Le problème, c'est que... Enfin, le problème, je ne sais pas si c'est le problème, mais que beaucoup de catholiques sont croyants sans être pratiquants, et que, y compris la fréquentation des églises, est quand même, elle aussi, en chute libre.
Tout à fait. Mais quand je dis qu'on va à la messe, il y a quelque chose qui est célébré. Les chrétiens, il y a un moment où ils se retrouvent ensemble, ils célèbrent. Les catholiques en particulier. Alors, sur le pape François, moi, il y a une chose dont je suis absolument convaincue, c'est que le catholicisme ne peut se réformer que par le haut. C'est une illusion de penser qu'il se réforme par le bas. Et en cela, je ne suis pas d'accord avec un nombre de catholiques progressistes qui sont mes copains et mes copines qui espèrent que ça va jaillir par le bas. Ce n'est pas conforme avec ce qu'est le catholicisme. Si on réforme par le bas, on fait du protestantisme. Donc, il faut qu'on réforme par le haut, il n'y a pas d'autre solution. Il y a un miracle, je suis un petit peu croyante quand même, c'est que 120 cardinaux qui a priori sont massivement réactionnaires élisent le pape François. il se passe quelque chose quand même au conclave.
Ils n'avaient pas élu la fois précédente et ils ont tout fait pour écarter tous ceux qui étaient plus progressistes. Martini, par exemple.
Oui, mais je veux dire, honnêtement, personne ne pariait sur Bergoglio jusqu'au moment où il se pointe au balcon de Saint-Pierre. Moi, j'étais proprement estomaquée. J'étais sous le balcon. Je me suis dit, mais je vis un rêve. Ça ne peut pas arriver. Sauf si l'Esprit Saint bosse. Ce que je crois. Donc, voilà, il se passe ça. Alors, le pape François, il est plein d'ambiguïté, faut pas se faire trop d'illusions. Pour progresser dans le système catholique, faut avoir joué le jeu. Et en même temps, là où il a décidé de casser une partie du système. Très franchement, moi je crois, je suis passionnée par ce qui est en train de se passer, vous l'imaginez bien.
Et c'est passionnant.
C'est passionnant, parce qu'en fait, le grand jeu, c'est le prochain conclave. Le pape François, il a 82 ans. Je crois qu'il est très déterminé, qu'il essaie de faire des choses, mais c'est quand même, je veux dire, le jeu prochain, c'est ce qui se passe au prochain conclave. Est-ce que les conservateurs reprennent l'avantage et on reprend business as usual, et c'est une parenthèse, ou bien est-ce que quelqu'un fait le pas d'après?
Merci Christine Pedotti. Qu'avez-vous fait de Jésus? C'est publié chez Albin Michel. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Jérôme Boulet, à la technique Charles Pélabon. Et je vous donne rendez-vous demain midi pour questions politiques. À suivre, les secrets d'info de Jacques Monin. ISF, la réforme a-t-elle servi l'économie?